En venant ce matin, je me suis demandé est-ce que après la prédication, j'allais laisser un temps de réaction et de questions. Et je me suis dit, ah, finalement pas, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne ma marque de fabrique. Je le fais de temps en temps. Mais j'ai changé d'avis parce que quand j'ai entendu que le 18 août, où j'aurai l'occasion encore d'apporter ici la prédication, les enfants seront parmi nous, pour ne pas prolonger le culte à ce moment-là, il n'y aura pas tant de questions ou de réactions. Alors j'en laisserai un aujourd'hui. Nous allons lire un texte qui a déjà en partie été lu pendant la première partie de ce culte. C'est l'épisode de la guérison du boiteux que nous pouvons lire en acte 3, un épisode qui a lieu environ 2 ans après la Pentecôte mentionnée en acte chapitre 2. Et je vais vous lire le texte donc d'acte 3, les versets 1 à 26, dans la version de la Tob. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre, alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. » Le Nazaréen marche. Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut autour d'eux, stupéfait, au portique appelé portique de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Israélites, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive, ou pourquoi nous fixez-nous comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous aviez livré et que vous aviez refusé en présence de Pilate, décidé quant à lui à le relâcher. Vous avez refusé le saint et le juste et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes les témoins. Grâce à la foi au nom de Jésus, ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé en votre présence à tous. Cela dit, frères, c'est dans l'ignorance, je le sais, que vous avez agi tout comme vos chefs. Dieu, lui, avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait. Et c'est ce qu'il a accompli. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu, afin que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les moments de fraîcheur accordés par le Seigneur quand il enverra le Christ qui vous est destiné, Jésus, que le ciel doit accueillir jusqu'au temps où sera restauré tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse d'abord a dit « Le Seigneur Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète tel que moi. » Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Et toute personne qui n'écoutera pas ce prophète sera donc retranchée du peuple. Et tous les prophètes, depuis Samuel et ses successeurs, ont à leur tour parlé pour annoncer les jours que nous vivons. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères lorsqu'il a dit à Abraham, « En ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. » C'est pour vous que Dieu a d'abord suscité puis envoyer son serviteur pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méfaits. Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Glorifier Jésus. Jésus a annoncé la venue de l'Esprit en disant, en Jean 16, au verset 14, « Il me glorifiera » en parlant de l'Esprit. À quoi reconnaît-on que les chrétiens sont conduits par le Saint-Esprit ? Parce qu'ils glorifient Jésus. Quand les chrétiens se glorifient eux-mêmes, on peut être sûr qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Du moins à ce moment-là. Pierre est clair. Ce n'est pas nous, chrétiens, et même Pierre et Jean en tant qu'apôtres, qu'il faut glorifier. Car ils disent, pourquoi nous fixer nous, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme ? Non, c'est grâce à la foi dans le nom de Jésus. La foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé. Citation du verset 16 de notre texte. Cette foi, d'ailleurs, du boiteux qui est mentionnée là, peut nous paraître quelque peu mystérieuse, car dans le texte, le boiteux ne dit rien, ne parle pas. Cette foi s'est-elle manifestée simplement lorsque le boiteux a saisi la main tendue par Pierre au nom de Jésus ? Peut-être une petite foi peut déplacer des montagnes. Ce qui est sûr, c'est que ce miracle du boiteux guéri joue un rôle précis, le rôle d'ouvrir aussi les cœurs fermés à l'Évangile. Et je voudrais l'affirmer, nous avons il y a quelques semaines fêté la Pentecôte, l'action de l'Esprit de Jésus ne s'est pas arrêtée à la Pentecôte. Jésus-Christ, effectivement, est remonté au ciel, mais il n'a pas laissé les chrétiens orphelins. Il a envoyé son Esprit qui est venu sur les disciples à la Pentecôte. Et dans notre chapitre, le nom du Saint-Esprit n'est pas mentionné, mais on le voit à l'œuvre. Jésus est glorifié car des cœurs fermés à l'Évangile s'ouvrent et nous reconnaissons bien là l'œuvre de l'Esprit qui un jour aussi a ouvert notre cœur. Nous sommes dans une société occidentale avec beaucoup de paradoxes. À la fois la médecine est performante et pourtant nous n'avons jamais entendu autant parler qu'aujourd'hui de guérisseurs de toutes sortes, de thérapeutes, de thérapies, plus bizarres les unes que les autres. Alors je ne veux pas diaboliser ce que je ne connais pas, mais cela me laisse perplexe. Les Français me semblent quelquefois plutôt très rationalistes et très matérialistes, et en même temps prêts à croire le premier venu qui se dit guérisseur. Plus étonnant encore, certains professionnels de la santé, certains psychiatres même vont chercher dans des religions orientales, notamment le bouddhisme, des techniques spirituelles. Vous avez peut-être entendu parler de la méditation plein éveil ou pleine conscience, par exemple, pour soigner leurs malades. Et l'Église dans tout ça croit-elle que Jésus guérit encore aujourd'hui ? Il me semble qu'en observant un petit peu notre paysage des églises en France, on oscille entre deux extrêmes. Un premier extrême, d'un côté, des pasteurs guérisseurs qui agissent en solo et sans contrôle. Or, je vous rappelle que les dons dans l'Église sont donnés pour l'utilisation commune, l'utilité dans la communauté. Et malheureusement, bien souvent, dans ce type d'Église, on peut même faire pression sur les gens où on les culpabilise s'ils ne guérissent pas comme on voudrait. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, nous trouvons des églises où l'on observe un silence sur la question de la guérison. Et pourtant, nous en avons beaucoup qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Ce récit du livre des Actes des Apôtres, ou on pourrait l'appeler d'ailleurs le livre des Actes de l'Esprit Saint, n'est ni le récit d'une rencontre avec un guérisseur, ni le récit d'une technique de guérison. Et ce récit n'est même pas d'abord, j'ose le dire, un récit de guérison, mais d'abord la rencontre de quelqu'un qui souffre avec des témoins de Jésus-Christ. Et cette rencontre va lui permettre de rencontrer la personne même de Jésus-Christ. Je remarque que Pierre prend bien soin de dire aussi « nous, regarde-nous ». Alors oui, il y avait Pierre et Jean, c'est un pluriel, « regarde-nous ». Mais peut-être on peut voir aussi dans ce pluriel que Pierre et Jean représentent encore un corps bien plus large, le corps de l'Église. Pourquoi nous fixer « nous » ? On peut entendre dans ce « nous » l'Église. La mission de Pierre n'est pas solitaire. Il la replace par ce pluriel dans le cadre de l'Église. L'Église témoigne que Jésus agit avec puissance. L'Église annonce la bonne nouvelle que Dieu restaure, que Dieu redonne à chacun sa vraie place devant Dieu et que Dieu change des vies et que Jésus change la vie. Trois changements qu'on peut observer dans ce texte. Jésus fait d'un homme objet un homme debout, on va le développer tout à l'heure. Jésus fait d'un homme exclu un homme en communion qui peut entrer dans le temple. Et Jésus fait d'un homme accablé un homme louant Dieu, les deux derniers étant liés. Jésus fait d'un homme objet un homme debout. Vous avez peut-être remarqué à la lecture ce détail du texte qui nous rapporte que cet homme était porté ou apporté comme un objet pour être posé à un endroit puisqu'il ne pouvait plus bouger par la suite, posé un peu peut-être comme un meuble à un endroit où pouvait gagner de l'argent à l'entrée du temple pour faire l'aumône. Les passants donnent l'aumône, mais sans s'arrêter, très probablement, sans le considérer véritablement comme une personne. Mais Pierre commence par le regarder comme une personne. Et la guérison commence par là. Pierre ainsi que Jean le fixa et lui dit « Regarde-nous ». Ils l'ont fixé et lui ont dit « Regarde-nous ». L'homme les observait car il s'attendait à obtenir quelque chose d'eux. L'homme s'attendait à recevoir effectivement de l'argent. Mais Pierre va lui offrir autre chose, de rencontrer quelqu'un. Le malade attend quelque chose, mais il va recevoir quelqu'un, Jésus-Christ. Cette guérison est un processus en trois temps, le regard, puis ensuite la parole, et enfin la main tendue. Le regard qui réhumanise cet homme, ensuite la parole qui est une parole qui annonce la guérison en Jésus-Christ, et enfin la main tendue qui relève l'homme. Alors cette main tendue de Pierre est surprenante parce que Pierre a foi que Dieu va agir, que l'Esprit de Dieu va glorifier Jésus à ce moment. Il n'a pas de doute, mais néanmoins, il lui tend la main pour l'aider à se relever. Dieu se sert des hommes et à aucun moment, aide humaine et aide de Dieu ne sont peut-être pas à aucun moment, mais de façon générale, il ne faudrait pas opposer aide de Dieu et aide humaine. Ceci dit, le récit est bien clair, ce n'est pas Pierre ni Jean qui a guéri le boiteux. Le miracle est l'œuvre de Dieu. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent et celui qui est maintenant ex-boiteux ne s'y trompe pas, il ne dit pas merci à Pierre pour le coup de main, merci d'avoir tendu la main, c'est ça qui m'a donné la force de me relever. Non, il loue Dieu. Il a compris qui est derrière cette puissance qui s'est manifestée à ce moment-là dans sa vie, au niveau physique. Cet homme qui était exclu, un autre changement s'opère aussi dans sa vie, c'est qu'il peut aussi maintenant entrer dans le temple. Alors cet homme était exclu non seulement de la communion des hommes, mais aussi de la communion du culte, car un boiteux n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Et là, il peut entrer pour la première fois dans le temple. Il y entre, mais non seulement il y entre, mais en plus en sautant, en bondissant dans la traduction que je vous ai lue, et en louant Dieu. Et il y a un détail aussi qui est mis en valeur par la version que j'ai utilisée ce matin, au verset 11. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. C'est une expression plutôt moderne. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean, il ne les quittait plus, avec de la reconnaissance, certes, mais aussi, très probablement, la joie de retrouver une forme de communion qu'il n'avait plus connue depuis de nombreuses années. Et pourtant, ce miracle suscite l'incompréhension. Il y a un proverbe chinois qui dit « Lorsque le sage montre la lune, le sot regarde le doigt ». Le miracle est un doigt pointé, mais vers où? Vers qui? La foule ne comprend pas et regarde d'abord Pierre, comme s'il était l'auteur du miracle. Et Pierre les corrige et les invite à tourner leur regard vers Jésus. Et il leur dit, « Israélites, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive ? Ou pourquoi nous fixer comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme ?» Pierre et Jean ne sont pas des guérisseurs. Ils ne sont pas des hommes qui ont en eux-mêmes une puissance ou dont la piété personnelle serait supérieure aux autres et qui leur permettrait d'agir avec plus de puissance que les autres êtres humains. Ils disent « Ne tournez pas vos regards vers nous, tournez vos regards vers Jésus-Christ. » Et je crois que c'est un bon critère pour nous aussi aujourd'hui de discernement. Dans le bazar, on pourrait dire, des thérapeutes et guérisseurs de toutes sortes. Pratiques magiques, pèlerinages, médailles miraculeuses, gris-gris, talismans, marabouts, etc. Par quel esprit agissent-ils? Et est-ce que ça glorifie Jésus? Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a impressionné lorsque je l'ai lue. Je vous en fais un petit résumé maintenant. Quelqu'un qui s'appelle Joseph-Marie Verlinde, un scientifique qui a tout abandonné pour se perfectionner dans le yoga, revient en France et là, il se découvre, après ce voyage en Asie, un don de guérison qu'il met en pratique jusqu'au jour où il sent que des esprits cherchent à prendre possession de lui. Il était, lui, d'origine catholique et il se précipite alors dans la première église qu'il trouve et il s'adresse au prêtre qui est là, qui se trouve être justement le prêtre exorciste du diocèse. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il a prié et il a dit « Seigneur, si ce don de guérison vient de toi, fais que je le garde pour le mettre à ton service, mais s'il ne vient pas de toi, ôte-le. » Et à partir de ce moment, il n'a plus eu de don de guérison. Il y a donc des guérisons qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, mais de l'Esprit du mal. Dans le livre des Actes, nous trouvons aussi des magiciens, Simon et Limas, les sept fils de Séva. Mais Pierre et Jean ne sont pas des magiciens. Pierre dit, ne regardez pas ce miracle comme si c'était par notre puissance, mais regardez plutôt ce que produit la foi dans le nom de Jésus. Alors que les magiciens, eux, se glorifient de leur propre puissance. Au chapitre 8 du livre des Actes, on découvre Simon, et je vous lis, un homme du nom de Simon qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Le peuple disait, celui-ci est la puissance de Dieu. On voit dans ce court extrait que Simon recherche la puissance pour son profit. Il se disait lui-même quelqu'un de grand. En acte 13, versets 8 à 10, Élimas, le magicien, cherche à s'opposer à l'annonce de l'évangile. Il y a encore maintenant un court extrait, mais Élimas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit, « toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ? Dieu n'aime pas la magie. Fuyons toute thérapie qui s'apparente à de la magie. Dieu aime la foi de celui qui se confie en lui dans l'épreuve. Les vrais témoins de Jésus ne cherchent pas leur propre gloire, ne cherchent pas leur propre grandeur, comme Simon, le magicien, mais ils disent « ce n'est pas par notre puissance ou notre piété, c'est la puissance de Jésus et non la nôtre ». Dans l'église de Melun, en région parisienne, lorsque j'ai fréquenté cette église pendant mes études de théologie à Vaux-sur-Seine, j'ai eu l'impression d'être un témoin aussi de la puissance de Jésus dans le cas d'une guérison. Cette dame était en dépression depuis 17 ans, tout en étant chrétienne. Et un jour, elle vient trouver le pasteur et elle lui dit « Je suis guérie ». Et bien que l'église avait prié pour elle, franchement, à ce moment-là, on n'avait pas l'impression d'y être pour quelque chose dans cette guérison. Dieu avait agi. Alors oui, on avait prié. On avait prié pour cette sœur, mais on a tous eu l'impression de n'y être pour rien, d'être simplement témoin de la puissance de Dieu. Nous étions témoins de l'action guérissante de Dieu. Et cette dame, j'ai eu l'occasion de la voir après, elle était rayonnante, elle témoignait avec une audace aussi et un amour de Jésus qui m'ont touché. Je me souviens qu'on avait vécu le cours alpha dans cette église et elle avait ramené à elle seule 4 personnes pour ce cours. Elle glorifiait Jésus par son témoignage, même au niveau médical, puisqu'elle était allée voir le psychiatre qui, pendant 17 ans, l'avait accompagnée aussi dans cette épreuve. Et elle lui a dit la même chose qu'elle avait dit à son pasteur. Elle lui avait dit « Le Seigneur m'a guéri ». Et le psychiatre a dit « Effectivement, je constate la guérison que je n'explique pas ». Et il a dit « Est-ce que le Seigneur, il peut faire quelque chose pour moi ?» Et elle lui a dit « Mais bien sûr qu'il peut aussi faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas nous. Ce n'est ni par notre puissance ni notre piété, mais par l'Esprit du Seigneur. » Enfin, ce miracle a aussi pour but non seulement d'être une bénédiction et un signe aussi du royaume de Dieu à venir, où il n'y aura plus de maladie, mais aussi pour but d'ouvrir les cœurs fermés à l'évangile de tous ceux qui ont été témoins de ce miracle sans être directement au bénéfice d'un miracle eux-mêmes. Ce miracle du boiteux guéri, Pierre lui donne un sens précis, celui d'ouvrir les cœurs fermés à l'évangile, à ces personnes juives qui étaient témoins et qui ont peut-être pour certains d'entre eux connu même Jésus, jusqu'à peut-être réclamer sa mort sur la croix. Pierre profite de l'ouverture créée par l'étonnement devant ce miracle pour s'adresser à eux, aux Juifs de Jérusalem, dont certains étaient peut-être de ceux qui avaient crié quelques années auparavant « Crucifie-le ». Et il dresse dans un premier temps, Pierre, un acte plutôt d'accusation. Il dit « Vous avez refusé le saint et le juste ». Le saint et le juste sont deux termes qui sont employés dans l'Ancien Testament pour désigner le Messie, en Ésaïe 32 et Zacharie 9. Et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes les témoins. Mais après cette accusation, peut-être un peu sans doute difficile, dure à recevoir, Pierre conclut en adoucissant néanmoins son propos, en les appelant frères, et il les invite à se convertir. Cela dit, frères, c'est dans l'ignorance, je le sais, que vous avez agi, tout comme vos chefs. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu afin que vos péchés soient effacés. Voilà le but aussi du miracle, un changement de vie, une vie tournée vers Jésus-Christ, un appel pour tous ceux qui étaient témoins à la conversion, à un changement de vie, un retour à Dieu. Conclusion, je vous propose de retenir de ce texte une idée forte pour notre vie, c'est que celle que nos paroles, nos actes doivent servir à glorifier Jésus, à glorifier Dieu. Et à nous poser la question, est-ce que j'attire les regards sur moi ou bien est-ce que je rends gloire à Dieu par mes paroles, mes pensées même et mes actes? Est-ce que je rends gloire à Dieu pour les bienfaits qu'il m'accorde? Et concrètement, demain, sur mon lieu de travail, comment faire pour glorifier Jésus? Alors c'est vraiment une question. Je pense d'ailleurs qu'à cette question, c'est vous qui êtes les mieux placés pour y répondre, puisque c'est vous qui connaissez le mieux votre contexte professionnel, vos collègues, et puis votre propre vie et relation avec le Seigneur. Comment glorifier Jésus là où je suis? Alors bien sûr, l'Église, les frères et sœurs sont là pour vous aider aussi chacun à répondre à cette question du mieux possible. Demain, dans ma famille, vais-je mettre Jésus en avant? Et dans mon entourage, que l'Esprit de Dieu nous inspire dans ce sens-là, afin que nous aussi, à la suite et à l'exemple des apôtres, nous soyons témoins et que nous rendions témoignage à Jésus, à son œuvre, que nous vivions pour la gloire de Dieu. Je citerai simplement un verset du psaume 115, le verset 1 pour conclure. « Non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire. » Amen.